France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Jean-François Kahn qui publie de passionnants Mémoires d'outre-vie, un livre très personnel dans lequel il revient sur la France de son enfance, l'apprentissage du journalisme, les voyages et les rencontres sous De Gaulle, Pompidou ou Giscard, autant de sujets que nous allons évoquer en musique avec les chansons et les opérettes qui jalonnent également la vie de Jean-François Kahn, lui qui vint au monde en l'année 1938, celle de Boom de Charles Trenet, de Je cherche un millionnaire parmi Stinguette ou encore des escales de Suzy Solidor.
Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Le flot qui roule à l'horizon me fait penser à un garçon qui ne croyait ni Dieu ni diable. Je l'ai rencontré vers le nord un soir d'escale sur un port dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool. Il ne portait pas de faux col, mais un douteux foulard de soie. En entrant, je n'ai vu que lui, et mon cœur en fut ébloui de joie. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Il me prit la main sans un mot et m'entraîna hors du bistrot, tout simplement d'un geste tendre. Ce n'était pas incompliqué, il demeurait le long du quai, je n'ai pas cherché à comprendre. Sa chambre donnait sur le port, des marins sous chantaient dehors, un bec de gaz d'un halo blême éclairait le triste réduit. Il m'écrasait tout contre lui. Je t'aime. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Son baiser me brûle toujours, et cela ce qu'on dit l'amour. Son bateau mouillait dans la rade. Chassant les rêves de la nuit, au jour naissant, il s'est enfui pour rejoindre les camarades. Je l'ai vu monter sur le pont, et si je ne sais pas son nom, je connais celui du navire. Un navire qui s'est perdu. Quant au marin, nul n'en peut plus rien dire. Le ciel est bas, la mer est grise, ferme la fenêtre à la brise.
Ah oui, quel petit chef-d'œuvre que ces escales de Suzy Solidor, qui adorait les chansons de marin, qui adorait d'ailleurs parfois aussi entretenir une certaine ambiguïté entre les garçons et les filles. C'est l'une de ses marques de fabrique. Et cette chanson, eh bien, en plus, elle est composée par la grande Marguerite Monod. Alors après les escales de Solidor, tiens, je vous propose une autre escale quelques années plus tard, dans les années 50, et dans la bonne ville de La Havane.
Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Tu relojito de mano ya lo tienes que arreglar. Se rompió tu reloj, ya no quiere caminar. Tu relojito de mano ya lo tienes que arreglar. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar, se rompió. Tu reloj ya no quiere caminar. Esta noche yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Tu reloj ya no quiere. esta noche yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Dale, dale, dale suave, aprieta, aprieta el tornillito, mueve, mueve las agujas, tu reloj ya no quiere caminar. Taqui, taqui, taqui tu reloj, taqui al compás del cha-cha-cha. Taqui, taqui, taqui tu reloj, taqui al compás del cha-cha-cha.
Oh, le délicieux cha-cha-cha qu'on n'appelait pas encore à l'époque de la salsa, El Relojito de Mano par Julio Gutiérrez et son orchestre.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité, un invité que vous connaissez bien, d'abord parce que c'est un homme célèbre, et puis aussi parce que c'est un habitué de cette émission où il est venu souvent nous faire partager son amour, sa passion même de la chanson, de l'opérette ou encore de certains opéras. Et oui, mélomane il est, mais tout l'intéresse à cet homme à la vie passionnante qui vient justement de publier le premier tome de ses mémoires d'outre-vie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Kahn.
Que la plaine s'aride. J'ai vu les peuples du Péloponnèse, les bords de la Propontide et les femmes carthaginoises. J'ai pris une foule d'observations qui me serviront pour mes vieux jours. En voici deux des plus étranges. Écoute-les bien, mon ange. Tous les peuples de la terre, généralement, quand ils ont faim, ils mangent. Et quand ils ont sommeil, ils vont se coucher. J'ai traversé le Canada, j'ai vu le monde en Bonaparte, je suis tombé dans la Vistule. J'ai même poussé jusqu'au Japon par la barrière de Charenton, j'ai débarqué en Avignon. J'ai traversé le Canada, j'ai vu le monde en Bonaparte, je suis tombé dans la Vistule. J'ai même poussé jusqu'au Japon par la barrière de Charenton, j'ai débarqué en Avignon. Que de peine, que de gêne pour éviter tous ces écueils. Et je m'étonne que ma personne possède encore bon pied, bon œil. Oh, toi que j'ai quitté, ma tendre Rosquita, celui qui te quitta veut ici s'acquitter. Donc nous nous quittons plus, qui t'a quitté ce qui n'est un breton que qui te perfait qu'elle quitte. Ah, comment ça te reste, ah, quelle est mon ivresse, quand je suis près de toi, mon esprit court les toits. Oh, toi que j'ai quitté, ma tendre Rosquita, celui qui te quitta veut ici s'acquitter. Donc nous quittons plus, qui t'a quitté ce qui n'est amour autant que qui te carpeille, carquitte. Quoique j'aime l'amour, le voyage a son charme, et je dirai toujours avec l'œil à la larme.
Et traverser le Canada, j'ai vu le monde de mon papa, je suis tombé dans la Vistule. J'ai même poussé jusqu'au Japon par la barrière de Charenton, j'ai débarqué en Avignon.
J'ai traversé le Canada, j'ai vu le bonhomme tapin, je suis tombé dans la Vistule. J'ai même poussé jusqu'au Japon par la barrière de Charenton, j'ai débarqué en Avignon. J'ai débarqué en Avignon, j'ai débarqué en Avignon, en Avignon, en Avignon, en Avignon.
Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
J'avais envie de vous accueillir avec cet air d'Hervé, le très loufoque Hervé, chanté par Jean Giraudeau. Voilà, un homme qui a traversé la planète entière en long, en large et en travers et qui a glané des souvenirs pour ses vieux jours. Et
bien, c'est un génie, Hervé.
C'est un grand.
Oui. C'est malheureusement un peu méconnu aujourd'hui. Ça, c'est une imitation du grand opéra.
Exactement.
C'est formidable.
Et puis alors, vous, c'est un peu la même chose. Vous avez connu l'avant-guerre, l'occupation, la libération. Vous avez vécu la fin de l'Algérie française. Vous avez entendu le discours de De Gaulle à Phnom Penh. Vous avez été blessé en mai 68. Vous avez connu Moscou au temps de Brejnev. Et même interviewé Youri Gagarine. Finalement, voilà, c'est comme dans cette histoire. Vous avez accumulé une quantité de souvenirs, d'expériences pour vos... J'ose pas dire vos vieux jours, pour vos mémoires en tout cas, on a l'impression que vous avez été partout, presque, au moment où il fallait y être.
Oui, c'est pour ça que j'intitule ce premier tome « Je me retourne sidéré », parce que j'avais pas pris conscience de ça. Et quand je me retourne, à part la révolution portugaise, je crois que tout ce qui, pendant 60 ans, a façonné le monde qu'est le nôtre, à l'étranger, en France, je l'ai vécu de l'intérieur, absolument tout. C'est un pur hasard, hein, je crois être le seul type encore vivant qui a vécu tout ça.
Et en même temps, vous l'expliquez à un moment dans ce livre, quand vous parlez évidemment de votre métier de journaliste qui occupe une grande part de ce volume, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est au cœur de quelque chose qu'on le voit le mieux. Vous racontez notamment, c'est au Liban, comme ça, vous êtes au milieu des combats, vous comprenez rien à ce qui se passe, et vous rentrez à l'hôtel et ceux qui sont jamais sortis de leur chambre, eux ont vu exactement ce qui s'était passé.
C'était au moment de Septembre Noir, c'est-à-dire il y a une guerre civile entre les Palestiniens, les fidéines palestiniens, et les Bédouins du roi Hassan de Jordanie. Guerre dans la ville, bon. Le hasard fait que j'étais dans un grand hôtel avec tous les journalistes. Les commandos palestiniens sont arrivés, ont bouclé tout le monde. Ils n'ont pas pu sortir. Et moi, j'étais parti, un quart d'heure avant, j'avais un rendez-vous. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé au milieu des combats. Mais la vérité, c'est quoi vivre une guerre civile, un combat de rue? C'est que vous vous cachez... pour regarder des gens qui se cachent, qui tirent sur des gens qui se cachent. Vous voyez rien, vous comprenez rien, mais absolument rien. D'ailleurs, je ne savais pas qui avait gagné. Pour vous dire la vérité, je retourne à l'hôtel. Et là, j'avais les journalistes qui n'avaient rien vu, puisqu'ils étaient bouclés dans l'hôtel. Ben, ils avaient écouté Radio Tel Aviv, Radio Le Caire, Radio Machin. Mais eux, ils savaient tout, ils savaient qui avait gagné, ils avaient tout compris, c'est eux qui m'ont expliqué. Donc, c'est ceux qui n'ont rien vu, qui m'ont expliqué le sens de ce que, soi-disant, j'avais vu.
Donc, le reportage de terrain, ça sert à rien.
Ah, si. Il y a des fois où ça sert. Puis ça ajoute. Mais l'idée, je sais parce que... parce que si c'est vrai parce que je l'ai vu, à ce moment-là, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Ouais. Tout le monde voit le soleil qui tourne autour de la Terre. Il se lève au zénith, il se couche. Donc voilà. Mais c'est pas vrai, c'est l'inverse.
Alors c'est cette quantité d'expérience dont vous avez pris soudain conscience qui vous a conduit à écrire vos mémoires, à commencer à écrire vos mémoires, puisque ça n'est là que la première partie, il y aura deux volumes je crois.
Ouais, mais c'était l'idée que on ne pouvait écrire ses mémoires qu'après 80 ans.
Ah voilà.
Bon, j'en ai 83, je pensais que maintenant...
C'était autorisé.
Je pouvais, c'est autorisé.
Ce livre-là, c'est vraiment le récit de votre apprentissage de la vie et en particulier
puis surtout
du
la façon
métier de journaliste.
Notre monde
aussi.
Aujourd'hui se fait, quoi.
Voilà. On va le parcourir en musique parce que c'est évidemment le plaisir qu'on a quand on se retrouve dans cette émission de pouvoir en profiter pour faire découvrir des chansons ou des airs d'opéra et que vous en parlez beaucoup dans le livre aussi. Bien sûr, on va revenir. Et je vais commencer, justement, par un de vos souvenirs d'enfance à cette période. Vous nous direz après pourquoi aujourd'hui on dit toujours sous l'occupation, mais à l'époque on disait pendant l'occupation.
Thank you.
Version orchestrale de la célèbre marche militaire de Schubert. Alors, Jean-François Kahn, c'est un de vos plus vieux souvenirs et c'est associé à la présence des soldats allemands en France pendant la guerre.
Oui, mais c'est associé aussi à la nécessité, quand on écrit des mémoires, d'interpeller, d'interroger et de critiquer sa mémoire. Parce que ça se passe en 42, et je m'en souviens très bien, c'est un de mes souvenirs de l'occupation, il y a un orchestre de soldats allemands dans un kiosque à musique et qui joue de la musique. Pour moi, les soldats allemands, c'est des gens qui jouent de la musique. C'était bien. Et ils jouent quoi? Ils jouent la marche militaire de Schubert. Sauf que je ne sais pas ce que c'est qu'une marche militaire à l'époque, et surtout, j'ai jamais entendu parler de Schubert. Donc, évidemment, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'ai entendu une musique de soldats allemands dans le kiosque. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai reconstitué l'événement après coup, jusqu'à me convaincre que c'était la marche militaire de Schubert? J'ai un autre exemple, qui se passe un peu 2 ans après, en 44. C'est que je me souviens être rue des Plantes, c'est à Paris, dans l'ascenseur. Je suis avec ma mère, notre voisine, qui s'appelle Madame Legros, qui se trouve qu'elle est grosse, donc l'enfant s'en souvient. Et elle a des hoquets de douleur. Ma mère lui dit, Madame Legros, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, Madame Legros? Elle dit, ils ont fusillé mon fils ce matin. Et en effet, son fils était un élève du lycée Buffon. Le proviseur l'avait mis à la porte parce qu'il distribuait des tracts anti-allemands dans les Renault, et il a été fusillé avec d'autres, d'ailleurs, lycéens du lycée Buffon. Sauf que, quand écrit le livre, je m'aperçois que ça se passe en fin 43, et je rentre en fin 44. Voilà. Donc, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que cette scène s'est passée. Mais ma mère l'a tellement racontée que j'ai fini par la vivre et considérer que je l'avais vécue. Et voilà, et je suis obligé de faire sans arrêt ce travail de réexamen de la mémoire.
Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce livre si personnel et si passionnant, c'est qu'à chaque fois, justement, vous vous interrogez sur pourquoi est-ce qu'on se souvient de quelque chose, comment est-ce qu'on s'en souvient, quels sont les événements qui nous marquent et quelle est aussi effectivement leur vérité.
Ils ont fait une manifestation en 46, 47 pour célébrer les martyrs de lycée Buffon.
Oui, il y a un pont d'ailleurs à Paris qui porte ce nom.
Et vous savez qui a fait le discours? Le proviseur, qui les avait sinon plus ou moins dénoncés. Monsieur Legros est monté, il a foutu un coup de poing dans la tête du proviseur.
Alors, ce qui est aussi assez fascinant dans votre livre, Jean-François Kahn, vous êtes né en 38, et vous avez passé la guerre au Petit Précigny, c'est que on a l'impression, quand on vous lit, que vous êtes né au XVIIe siècle, vous avez découvert l'apparition de l'électricité, celle de la réfrigération, des choses qui n'existaient pas encore dans votre enfance, et que vous allez découvrir peu à peu, très jeune, au cours de ces premières années.
Mais je suis né au XVIIe siècle, c'était la France du XVIIe siècle, je crois. La France d'avant-guerre, un point incroyable, elle n'avait pas changé.
Là, c'était précisément dans l'Indre-et-Loire.
Elle n'avait pas changé depuis le XVIIe siècle. Il y avait des charrues, des charrettes avec des bœufs. C'est les bœufs qui traînaient les charrettes. Et surtout, une chose qui m'attendait, frappé un point que vous ne pouvez pas imaginer, je vivais dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Ça ne me choquait pas parce que je ne savais pas que ça existait, l'électricité, de toute façon. Donc, on avait des lampes à alcool. Et puis, au milieu de la pièce, la pièce unique, en vérité, il y avait un tumouche. Vous savez qui
un ruban collant.
Voilà, un ruban collant dans la base, il y a un tumouche. Et un jour, je vois qu'on remplace le tumouche par une espèce de fil et on met ce qui me paraissait une ventouse. Parce qu'à l'époque, quand on touchait, on vous mettait une ventouse. Ça ressemblait à une ventouse. Je dis, pourquoi ils mettent une ventouse au bout du fil? Et tout à coup, ils appuient sur un truc, paf, ça s'allume. C'est une petite lumière de rien du tout, mais pour moi, c'était Versailles. J'étais sidéré, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Mais comment la lumière vient? C'est quelque chose d'inouï. J'ai l'impression de vivre une révolution considérable.
Ça, c'est à la campagne, mais un peu plus tard, à Paris, vous voyez aussi encore les types qui viennent livrer la glace dans les immeubles.
On avait une glacière, donc il fallait chercher. Il y avait un mec avec une voiture à cheval. Et on allait chercher en bas les blocs de glace, on les remontait dans la glacière. Là aussi, quand j'ai vu arriver la frigidaire, j'étais frappé. Non, le plus extraordinaire, c'est la première fois, c'était un ami de mon père qui était ingénieur et tout. Il avait fabriqué un truc, c'était une télévision. Je vois, il y avait un écran. D'abord, pour moi, c'est une radio. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, la radio, on la regardait. Elle était sur un meuble, on se mettait autour, sur un fauteuil, et on regardait la radio. Donc, bon, c'était une radio. Puis il y avait une espèce d'écran, ils appuient, et tout à coup je vois des images. Alors je regarde, c'est pas les gens d'en face. Mais je me dis, comment on peut voir des gens qui sont pas là, que c'est pas les gens d'en face? Là, j'étais perturbé. C'est plus important qu'un miracle de la Vierge Marie pour moi.
Enfin voilà, vous avez un condensé en quelques années, aussi parce que c'est la guerre, parce que c'est l'occupation, justement parce que tout est un peu au ralenti, d'un ancien monde qui va évidemment changer très très vite après, à partir du de, encore
ah oui,
pendant votre enfance.
Ça va aller très vite.
Ça va aller très vite. Je vous disais tout à l'heure, sous l'occupation ou pendant l'occupation?
Maintenant on dit sous, on, doit, ah oui. on disait pendant, je sais pas pourquoi.
Ah oui, voilà, notez ce détail parmi...
Mais
parmi
ça change d'autres. Rien à l'occupation.
Ça change rien à l'occupation, que vous avez passé, je le redis, donc à la campagne, parce que en plus, vos origines sont compliquées. Vous êtes d'éducation chrétienne, mais avec des origines juives par votre père,
oui,
etc.
Oui, et puis en plus, j'ai mon père qui a été résistant de la première heure. C'est-à-dire, vraiment, il a essayé de rejoindre De Gaulle voilà. tout au début. Il n'est pas arrivé parce que son colonel l'a dénoncé, qu'on l'a arrêté, qu'on l'a emmené au camp d'Argelès. Au camp voilà, voilà. J'ai mon grand-père paternel qui était un bourgeois juif qui avait une étoile jaune, mais n'empêche, quand il a su que mon père était rentré dans la résistance active, après, il a dit « Je ne supporte pas que mon fils collabore avec des bandits. » C'était le mec qui avait une toile jaune. Mais surtout, j'ai une grand-mère que je ne connais pas. Mmh. Et pourquoi je ne la connais pas? C'est bizarre de ne pas connaître. Enfin, elle était vivante. Elle ne voulait pas me connaître. Et pourquoi elle ne voulait pas me connaître, ni moi, ni moi? Parce qu'on avait un nom juif. C'est-à-dire qu'elle était engagée fasciste. Enfin, c'est vraiment une vraie fasciste. Elle ne voulait pas connaître ses petits-enfants qui avaient un nom juif. Quand même, c'est incroyable. Bon. Et naturellement, ben, pendant l'occupation... elle a collaboré, enfin, elle était la maîtresse d'un officier allemand. Alors, c'est pareil, j'ai longtemps cru que c'était un officier SS, quant à faire.
Ah oui, voilà, les souvenirs, oui, c'est ça.
Mais quant à faire, c'est un officier allemand. Quand Paris est libéré, les résistants arrivent, à mon avis, pour la fusiller, enfin, je crois, enfin, bon. Mais elle a fui avec son amant, elle a suivi l'armée allemande en déroute. Elle a mis des bijoux dans une valise, de l'argent dans une valise, et là, au cours de la retraite, son amant allemand l'assassine d'une balle dans la tête pour piquer la valise de bijoux. Donc, par un retournement de dernière minute, alors que j'allais avoir une grand-mère fusillée pour collaboration, j'ai une grand-mère assassinée par les nazis. Ah, c'est quand même... Et alors, quand les gendarmes arrivent et l'apprennent à ma mère a ce mot merveilleux, par qui il a été tué, dit les Allemands, ma mère dit, ah, je préfère.
C'est terrible. Alors, Jean-François Kahn, dans votre livre, évidemment, et dans votre tendre enfance, il y a encore deux choses qui comptent beaucoup. C'est l'Empire, et puis c'est la France catholique, résumée dans ces deux petits extraits musicaux.
Sous le soleil marocain, je pointe à toi, toi, ma jolie, au pays des Réfins. Souvenir me fait aimer la vie. Dans le sable sans fin, ton amour seul berce ma nostalgie. Dans la douleur qui me hante et qui m'étreint, sous le soleil marocain.
Au ciel,
catholique et français toujours. C'est comme ça qu'on disait, je crois, hein, Jean-François Kahn. C'était l'expression de cette France, notamment de Pétain, etc., où évidemment il y avait...
Oui, mais c'est d'avant, je crois que c'était un cantique. C'est le paradoxe, c'est que c'est une bêtise, les paroles. Enfin, j'irai la voir un jour, là-haut, dans sa patrie. Oui, j'irai la voir Marie dans ses plus beaux atours. Franchement, on se frotte les yeux. Mais la musique est belle.
La musique est belle.
La musique est belle. Il faudrait que ça m'avait envoûté.
Vous avez été enfant de cœur?
Oui, bien sûr. Ouais. Quant à l'autre chanson, c'est le propre des chansons colonialistes de l'époque. Voilà. Gentiment colonialiste, c'est dans le désert marocain, je pense à toi, ou ma jolie, dans le soleil riffin, voilà, c'est ça, c'est le refrain qui est, c'est pareil, c'est dans la voix de son maître. Vous vous souvenez de la voix de son maître?
Oui, bien sûr. Avec le phono, oui.
Avec le grand phono, avec, oui. Comment on appelle l'espèce d'instrument, là.
Le pavillon du phono.
Le pavillon.
Oui.
Donc c'est ça qu'on avait. Ouais. Il y avait une manivelle. Ils avaient peu de disques, donc on écoute toujours la même chose. Il y avait le beau Danube bleu, ça je me souviens. Voilà. Il y avait une chanson magnifique d'ailleurs que j'aime toujours, qui est Dans la rue de notre amour, de Damia. Ah oui. J'aime beaucoup cette chanson. Il y avait l'inénarrable Angélus du paysan, voilà. Ou Credo du paysan. Angélus, voilà. De la mer et Credo du paysan, c'était des grands moments. C'est également assez en douille, mais c'était, voilà. Et c'était chanté par des ténors, hein, ou des barytons.
Voilà, par les chanteurs à voix, comme on disait. Voilà, en tout cas, tout le monde de votre enfance, avec aussi des ponts extraordinaires à travers le temps. Vous racontez ça également, Jean Socane, par exemple, quand vous avez connu, je crois, quelqu'un qui a coupé les cheveux de Victor Hugo.
Mon arrière-grand-mère. Voilà. Arrière-grand-mère m'a raconté, quand elle est petite fille, qu'elle a assisté à la répression de la Commune de Paris.
Voilà.
Alors, ça allait pas loin. C'est-à-dire, elle dit que sa mère lui a mis sa main sur les yeux en disant « Ne regarde pas, c'est pas pour les petites filles ». Mais ouais. Quand même, tu veux, je veux dire, j'ai su
c'est
récit.
Un saut dans le temps.
Ouais,
ça,
c'est un saut dans le temps.
À travers une seule personne.
J'ai eu une longue discussion avec un maire de Montreuil qui s'appelait Renoux, ouais. Daniel Renoux. Il était à côté de Jaurès quand Jaurès s'est fait assassiner.
Au Café du Croissant.
Il était à côté. Là, il m'a raconté absolument. Le problème, c'est qu'il l'avait raconté plusieurs fois. Et là aussi, il y a une réflexion. Oui. Est-ce qu'il raconte ce qu'il a vécu, ou est-ce qu'il raconte ce qu'il avait raconté? Imaginez que Jaurès, quand il a été tué, ait crié « Jésus-Marie ». Ben, le mec était communiste, il ne dirait pas. Il a rendu orthodoxe son récit. Il y a le prince Choussoupov. Vous voyez qui c'est, le prince Choussoupov?
Oui, l'assassin
c'est
de Rasputin.
C'est l'homme qui a assassiné Rasputin. Il m'a raconté l'assassinat de Rasputin. On l'empoisonne, il est toujours vivant. On lui tire des coups de revolver, il est vivant. On lui donne des coups de matraque, il est toujours vivant. Enfin, tout, c'est comme dans le sketch Robert Lamoureux, le canard est toujours vivant.
Il est toujours vivant,
Et finalement, on le fout à la flotte et il y a des bulles parce qu'il est toujours vivant. Bon, c'est horrible, le type, il était dans le noir, il avait des lunettes noires, il me raconte ça, c'était absolument horrible. Mais après, j'ai appris la vérité, c'est qu'il a pas tué Rasputin. Ils étaient trois. Là, et celui qui a tué Rasputin, c'était un membre de la famille royale, fallait pas qu'on sache que c'est lui qui avait tué. Donc ce qu'il racontait, c'est les récits qu'il avait faits, voilà. C'est même plus ce qu'il avait vécu. Donc il faut interroger ça aussi.
Mais c'est vraiment un des côtés, je le redis, passionnant de ce livre, justement, cette réflexion sur ce que sont nos souvenirs. Vous évoquez aussi, alors pour parler de musique, l'opposition d'une certaine façon de vos goûts à ceux de votre père, que vous aimez beaucoup d'ailleurs et que vous admirez, mais qui lui avait un goût alors très classique, très Jean-Sébastien Bach et les derniers quatuors de Beethoven, et peut-être ça va développer chez vous justement le goût de tout ce qui sort de ce bon goût classique.
C'est-à-dire, c'est vraiment les méfaits, je dis bien les méfaits d'un certain intellectualisme débridé. Dieu sait qu'on a mon frère, on a une admiration sans borne pour ce que nous a apporté mon père. Mais moi, il y a eu aussi la réaction. Oui, en musique, par exemple, pour lui, la musique s'arrête à Monteverdi et reprend avec Schoenberg, en gros. Et puis, il y a quelques exceptions.
Comme les derniers
quatuors. C'est le clavecin bien tempéré et les derniers quatuors de Beethoven. Et évidemment, ça m'a incité à aimer l'opérette, à la chansonnette, beaucoup, c'est clair.
Et vous l'expliquez fort.
Et pour lui, les opéras, la bohème, c'était une opérette. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, Puccini, c'est vraiment de la sous-musique. Oui. Parmi vos premières belles impressions d'opéra comique français, il y a Magali m'a bien aimé dans Mireille.
Oui, je sais pas pourquoi, je ne savais pas, c'est mon grand-père. Quand j'étais tout petit, j'avais 3 ans, il m'apprend à chanter « Oh Magali, ma bien-aimée », que je sais encore, je peux vous la chanter, mais je ne savais pas que c'était un air d'opéra, voilà. Bien sûr.
Et on va se faire plaisir tous les deux avec ce répertoire et l'excellent Daniel François Esprit Aubert, celui du RER, dans un extrait de Manon Lescaut.
Fabuleuse d'un galant fier à bras.
Daniel François, Esprit Aubert, Manon Lescaut, cette très jolie musique chantée ici évidemment par notre regretté Maddy Mesplet. Et voilà, c'est un des compositeurs pour lequel vous militez depuis longtemps, hein, Jean-François Kahn.
Bah, d'une façon générale, vous savez que j'ai milité beaucoup. Oui. D'abord pour qu'on retrouve des œuvres lyriques françaises du 19e qu'on avait injustement oubliées. Et pour qu'on réhabilite l'opérette, qui est quand même où on retrouve dans le meilleur de l'opérette tout le génie français. Là, en l'occurrence, c'est de l'opéra comique. Faut dire que Aubert, c'est un très très grand musicien. Il a connu la révolution de 1789 et la commune.
Donc,
il était traumatisé. Il disait toujours, on sait pas de quoi demain sera fait, forcément. Bon. Mais l'histoire de Aubert, il y a une histoire formidable dans Aubert. C'est que le mec, qui faisait des opéras comiques, etc., un jour, donc en 1828, le directeur d'opéra voit que ça marche plus très bien, parce que c'est là, on joue encore de la vieille musique du 18e, etc. Ça marche pas très bien. Il dit, il faudrait inventer quelque chose. Et il invente quelque chose. Il faudrait du drame, faudrait de la religion, faudrait de la passion, faudrait de la révolution, bon. Et il cherche un musicien pour faire ça. Pense à Berlioz. Berlioz dit, excusez-moi, j'écris pas sur commande, etc. Il veut pas. Mais il y a un type qui est très très doué, là. Il est capable de tout faire, Aubert. On le demande à Aubert de faire ça. Il le fait, c'est pas son truc du tout. D'ailleurs, il ne le fera plus. Il le fait. Ça peut être la muette de Portici. Et ça révolutionne l'opéra.
Voilà.
Et c'est un succès inouï.
Avant Meyerbeer. Ouais.
Et Wagner, quand il le voit, dit, on ne pourra plus écrire de la musique comme avant. C'est-à-dire ce mec qui n'était pas fait pour ça, qui l'a fait sur commande, provoque la plus grande révolution sans doute de l'art musical. Et le comble, c'est que le fait de présenter cet opéra à Bruxelles provoque la révolution belge. En plus, quand même incroyable.
Oui, c'est vraiment une très très grande figure. Ben voilà, c'était une joie de pouvoir le réentendre, Jean-François Kahn, à l'occasion de cette évocation de vos souvenirs, de vos mémoires qui viennent de paraître. Alors, on a longuement, parce que je trouvais ça très intéressant, parler de votre enfance, puis votre apprentissage. Vous savez pas d'ailleurs très bien, ou même pas du tout à l'époque, que vous deviendrez journaliste. Vous suivez des études, voilà, et vous observez un peu ce qui se passe autour de vous. Alors il y a une chose qui est très importante dans votre vie. Vous avez 18 ans, c'est l'année 1956. qui est une espèce de tournant de plein de choses, parce que il y a la question de l'Algérie qui se cristallise à ce moment-là, il y a l'affaire de Suez et d'autres raisons encore qui font que c'est un peu un moment charnière de votre vie.
Bah, vous savez, d'abord, je venais d'avoir 18 ans. Malheureusement, voilà. J'ai pas connu Dalida. J'ai voulu la connaître, mais dans la même année, vous avez la dénonciation des crimes de Staline.
En aussi,
fait,
bien sûr.
Le régime soviétique, en fait, c'était une tyrannie sanglante, etc. Vous avez l'intervention française en Suède, la plus grande idiotie qu'on ait jamais commue. Et c'est des socialistes qui provoquent une intervention militaire pour défendre les intérêts capitalistes. de la compagnie de Suez, c'est d'un dinguerie. Ensuite, l'Algérie, moi j'ai été formé, on me parle de la résistance, des Allemands, la Gestapo, la torture, le supplice de la mémoire, et j'entends parler de ça de nouveau, c'est les Français qui le font, ça me traumatise. Ensuite, l'intervention en Hongrie, les Soviétiques en Hongrie, enfin bref, c'est une année où tout s'effondre, toutes les idéologies s'effondrent.
Et pourtant, vous êtes communiste à ce moment-là.
Moi, souvent, quand on m'a demandé si j'étais communiste, je réponds oui ou non, parce que les deux sont vrais.
Oui et non.
Oui ou non.
Oui ou non.
C'est-à-dire, oui, j'ai été membre du Parti communiste pendant 2 ans, et non, parce que j'ai jamais été pour une société communiste, Et quand vous vivez ça pendant 16 ans à 18 ans, et cette trahison des socialistes, incroyable quand même, c'est vrai que ça m'a incité à cette expérience. Je regrette absolument pas cette expérience, entre nous, parce que le rapport des communistes à la culture qui était très intéressant.
Toujours.
Qui s'est effondré. Ouais. Non plus maintenant. Non. D'abord, il n'y a plus de parti communiste. Et puis surtout, moi, il y a une chose que j'aimais bien, c'est que d'abord, c'était un parti d'ordre. Qu'ils étaient anti-gauchistes. Et qu'ils reflétaient le sentiment populaire en posant, par exemple, des problèmes comme le problème de la sécurité, le problème de l'immigration. Et franchement, je trouve, même avec le recul, je trouve que c'est dommage qu'ils se soient écroulés.
Et puis, il y avait un culte, effectivement, de la littérature, de la musique, etc.
Moi, j'ai travaillé dans la poste, le service des tri postal de la gare du Nord. Regardez, tous les week-ends...
Oui, vous racontez ce type extraordinaire.
Il y avait un type qui était le chef, d'ailleurs, communiste local. Ouais. Il m'a tout appris sur la musique baroque. En l'époque, on n'en parlait pas. Jean-Marie Leclerc, Marin Marais, c'est lui qui m'a tout appris, c'était incroyable. Et toutes les semaines, on distribuait des livres de Stendhal, des livres de Balzac, etc., dans l'atelier et tout. Ça a été ça aussi, dans le meilleur, le Parti communiste. Et tout ça a disparu.
Voilà. Et vous dites aussi qu'alors, dans ces années 50 de votre jeunesse, il y avait quand même un petit problème avec la chanson française, c'est que la plupart des grands succès étaient vraiment des navets, au moins du point de vue de leurs paroles. Ouais. Quand même, parfois, ils sont très très bien faits.
C'est-à-dire, ça s'accroche à la mémoire. Voilà. Faut dire aussi que ça vous sort pas de la tête. Mais c'est vrai que...
Cerisier rose et pommier blanc.
Cerisier pommier blanc, ça vous reste dans la tête. Mais c'est con, quand même, comme histoire. Quand je jouais à la marée, cerisier rose et pommier blanc. Mais enfin, c'était... tape et tape avec ton valoir.
Justement, on va l'écouter, celle-là, parce que malgré tout, les paroles sont un peu crétines, je reconnais, mais les arrangements de Michel Legrand sont quand même formidables.
Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tap, battoir, tap, et tap, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutrés.
Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton battoir. Et tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Dormira mieux ce soir.
Ah, la musique d'André Pop et de Michel Legrand est quand même très bien, mais je reconnais que les paroles...
C'est ce que je veux dire, ça reste dans la tête, ça a eu un succès fou, ça vous accroche, c'est une très bonne musique. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. Vous pouvez me dire quel est le rapport, franchement.
On ne voit pas très bien.
C'est sûrement stupide.
Mais alors c'était un succès triomphal.
Ah, c'est un succès.
Alors pourquoi les gens ont mauvais goût?
Non, parce que quand quelque chose s'accroche, c'est tout le problème du rapport entre la parole et la musique. Quand il y a les deux, quand il y a Ne me quitte pas, où il y a la parole et les musiques, c'est sublime. Mais la musique peut en effet imposer quelquefois des chansons qui, il y en a beaucoup, hein, on pourrait en citer beaucoup,
qui sont
insipides. Puis en fait, c'était une grande chanteuse qui le chantait,
Jacqueline François.
Jacqueline François, qui était insupportable, oui. Comme moi je l'ai connue, mais qui était une grande chanteuse.
Mais qui était peut-être la plus grande vedette française internationale, ouais, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, les gens ne connaissent même plus son nom. Hein. Voilà, en tout cas, tiens, restons un petit peu à la chanson française avec. Juste une petite anecdote, puis on écoutera au moins un bout de cette merveilleuse chanson de Jacques Brel au printemps, parce que justement au moment où tous ces navets circulent et obtiennent des grands succès, il y a une nouvelle chanson plus poétique qui est en train de naître. Et alors les circonstances vont vous conduire à rencontrer Jacques Brel, encore débutant, par l'intermédiaire d'une jeune fille dans un sanatorium.
Ma mère m'avait... déjà emmené dans un cabaret écouter le jeune Brassens tout au début.
Oui.
C'était impressionnant à voir, parce qu'il était très maladroit, il avait les paroles écrites sur ça.
Un peu bougon même.
Bougon,
vous dites.
Oui. Donc j'avais écouté ça. J'avais avec un ami, on écoutait comme si c'était Radio Londres du Léo Ferré. Et il se trouve que j'étais malade. J'ai eu une tuberculose et je suis rentré dans une sorte de sanatorium pour étudiants pendant plus d'un an. Et j'ai été élu délégué aux loisirs. Arrive Noël, faut inventer quelque chose pour Noël, une fête, etc. Il se trouve que l'année d'avant, il y avait eu des bars de bretons. Les types, c'était surtout pas de bars de bretons, surtout pas de bars de bretons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais écouté à la radio un truc que je trouvais d'une dynamique terrible, ce qu'il disait « au printemps, et mon cœur et ton cœur se repeint au vin blanc ». Bon. Je savais pas qui chantait ça, j'avais pas retenu le nom, mais je sais formidable. Voilà, il nous faudrait ce type là, ça c'est pour des étudiants malades. Or, il se trouve qu'à l'étage d'au-dessous, des filles, il y avait Perrette Souplex.
Mais voilà, c'était la fille de Raymond Souplex.
La fille de Raymond Souplex.
J'ai reçu deux fois dans cette émission que j'aime beaucoup.
Formidable. Et à qui j'ai fait une émission ensuite à la télé. Je vais la voir, j'y écoute, il y a une chanson que j'ai écoutée, toi qui es un peu donné dans la variété et tout, tu sais pas qui c'est. Mais il dit, mais je le connais très bien. Il s'appelle Jacques Brel. Et ça a été l'amant de ma copine Suzanne Gabriello, parce qu'ils avaient fait un trio avec Suzanne Gabriello et Françoise Dorin.
Voilà, c'est parce qu'elles étaient toutes les trois filles de grands chansonniers. Voilà, Gabriello, René Dorin et Raymond Souplex. Voilà,
c'était la maîtresse de Suzanne Gabriello. Ouais. C'est pour elle qu'il a écrit « Ne me quitte pas », pour Suzanne Gabriello. Donc voilà le numéro de téléphone, je téléphone à ce type, donc j'apprends qu'il s'appelait Jacques Brel, et... Ben, je lui dis, on est des enfants tuberculeux, malades, etc. Vous pourriez pour Noël et tout. Je lui dis, parce que tous, on vous adore. En vérité, on ne savait pas qui c'était. On aime beaucoup ce que vous faites, etc. Bon, il a accepté. À l'époque, il faisait deux chansons dans un cabaret. Ouais. Trois chansons dans un cabaret. Et là, il nous a fait 12 chansons. C'est peut-être le premier récital Brel qu'on ait initié, finalement.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, oh printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers et puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, oh printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, ô bergère peu sage. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps.
Jacques Brel en 1958, à l'époque où vous l'avez donc connu, ou au moins rencontré.
Quelle présence de scène dès cette époque. Oui, moi, j'étais bluffé quand même. Inouï. Bon.
58, évidemment, c'est le tournant qu'on sait dans l'histoire de la République française, les débuts de la cinquième. Vous y revenez dans votre livre. C'est aussi à peu près la période, on peut dire, de la fin de vos années de formation. Et donc, un petit peu après, vous allez vous lancer dans le métier de journaliste, mais qui n'était pas du tout une vocation.
Hein.
Vous l'expliquez. Vous avez été prof, vous êtes intéressé à mille choses, mais c'est plutôt le hasard qui vous fait entrer en journalisme.
Totalement au hasard. J'avais pas la vocation. Et
vous expliquez que vous n'aviez même pas les qualités. Vous ne saviez pas conduire, vous ne parlez pas anglais. Il y en a une troisième.
Et en plus, je n'ai pas beaucoup aimé ce milieu.
Et en plus, et pourtant, ça va être votre vie. Ou en tout cas, une partie essentielle de votre vie.
Absolument.
Et ça commence dans un journal qu'on a oublié aujourd'hui, qui s'appelle Paris Presse, l'intransigeant.
Absolument.
C'est ça.
C'était le journal pour l'élite et les intellectuels du groupe Hachette. François étant le journal pour le peuple.
Ah voilà, c'est ça, oui.
En gros.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu journaliste et que finalement ce métier vous a happé?
Bah non, c'était mon métier, je vais vous dire. Je vais vous raconter une histoire qui en dira long. Ils avaient une rubrique idée.
Ouais.
C'était le premier journal à avoir fait une grande rubrique idée.
Ouais.
Et le responsable de cette rubrique idée était un type extrêmement sympathique qui va devenir président de la fédération de tennis, Châtrier, je pense que
c'est
la
bonne idée.
Quand le philosophe Merleau-Ponty meurt, il se trouve qu'il y avait que moi et un autre, on était deux à avoir lu du Merleau-Ponty, donc il me demande si je peux faire un article. Je fais un article, et dans cet article, je cite deux philosophes, un Berkeley, philosophe du 18e anglais, et Emmanuel Kant. Il me dit, fais bien votre papier, etc. Dites-moi, là, Berkeley et Emmanuel Kant, on pourrait pas faire une interview pour demain? Ouais, je leur dis que c'est très difficile. Bon, pour vous dire que... Bon,
vous étiez assez décalé, hein.
Donc, je me suis fait une place très vite. Très très vite, j'ai fait des reportages tout de suite. Et deuxième hasard, le journal était Algérie française, de plutôt de droite gaulliste.
Et vous partez en Algérie assez
vite.
Oui,
alors quand De Gaulle prend le tournant d'Algérie, ah là ils sont affolés, il faut changer la ligne. Moi j'avais toujours dit que j'étais pour l'indépendance de l'Algérie, pour la négociation en Algérie, etc. Donc alors que c'était les vedettes qu'il y en Algérie, les grandes stars. Du coup ils se retournent vers moi, qui suis tout jeune, ils disent vous pourriez pas prendre le relais. Et c'est ce qui fait que très vite. Ben voilà, je me suis retrouvé en Algérie.
Et c'est comme ça que vous allez couvrir ce moment assez tragique d'ailleurs. Hein, de,
j'ai couvert tous ces événements.
Du début des années 60 jusqu'au départ.
Et quand j'ai démissionné, le Monde m'a engagé tout de suite, voilà, etc., etc., etc.
Voilà, mais l'autre moment important, d'ailleurs vous y consacrez plusieurs chapitres et on va y revenir, l'autre tournant alors dans votre carrière de journaliste, c'est le choix de rentrer à l'Express, parce que vous aviez à ce moment-là aussi justement la possibilité de rester au Monde.
Non, mais je ne suis pas resté au Monde pour des raisons. Ma femme attendait un enfant. On n'était pas la sécurité sociale. Enfin, un truc. Il se trouve que l'Express me fait une proposition. J'ai été à l'Express. Et c'est vrai que ça a été une expérience que là, j'étais grand porteur. C'est-à-dire, pendant 8 ans, j'ai parcouru le monde, découvert absolument tout, quoi.
Voilà, dans ce journal qui était le nouveau journal, le journal qui avait une espèce de fraîcheur.
Avec ce personnage de François Giroud. Voilà. Moi, j'ai quand même assisté à deux choses. D'abord, le fait qu'un mec un jour mette les mains aux fesses de François Giroud, je vous dis pas à la scène. Hein.
Bah, elle était quand même féministe.
C'est un type qui s'appelait Marchetti, qui est devenu d'ailleurs chef du service de presse de Pompidou après. Ouais. Ah, il met la main aux fesses de François Giroud. Elle s'en retourne. Ah, les yeux, j'ai jamais vu des yeux qui déclenchaient des éclairs comme ça. Le mec, il s'est liquéfié. Et la deuxième, c'est qu'une fois, on était la soirée de bouclage. Vous savez, on bouffe un peu quelque chose au moment du bouclage. On lui amène la une. Elle est très content. C'était un truc sur le contrôle des naissances. Comment ne pas avoir d'enfant? Elle regarde, elle est très contente et tout. Dans le même numéro, on avait publié des bonnes feuilles du livre « De sang-froid ». Et de sang-froid, c'est de qui?
Eh ben, Truman Capote.
Et donc, il y avait un streamer spécial Capote. Et tout comment... à coup, elle voit ça. On leur fait la une.
Mais c'était la reine. Hein. Vous racontez comment tout le monde, aux réunions de rédaction, voulait être à côté d'elle,
et après, j'étais son patron. Parce que quand j'ai dirigé les nouvelles littéraires, elle m'a fait le bloc-notes de la
voilà,
fin.
Voilà, vous l'avez toujours bien aimé, François Giroud. Est-ce que vous savez, Jean-François Kahn, qu'il y a un lien entre François Giroud et l'histoire de la chanson?
Ah, mais j'ai toujours su. Elle a fait une chanson qui s'appelle « Un par un vont les petits indiens, deux par deux vont les amoureux ». Et elle a fait une chanson qui s'appelle « Il avait le charme slave ».
Il avait le charme slave. Et elle en a fait d'autres, c'était bien avant l'Express. Hein. C'est juste après la guerre, donc où elle a été à un moment auteur de chansons. Moi, j'ai retrouvé celle-ci que je trouve très, très amusante. « Quand Betty fait boop » par Josette Daïdé.
Éléphants ou bien des caramels, moi je ne voulais rien de tout ça. Et je demandais à mon papa, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi au cinéma. Oh, quand Betty fait boop, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, ça me traverse par-ci par-là, ça monte ici, ça descend, ça me prend là. Quand Betty fait boop, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait autant d'effet que ça. Quand j'eus 18 ans, je connus un beau jour, un jeune homme charmant qui, pour me faire la cour, m'offrit une loge à l'opéra. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas, emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi au cinéma. Oh, quand Betty fait boop, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, ça me traverse par-ci par-là, ça monte ici, ça descend, ça me prend là. Oh, quand Betty fait boop, et quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait d'autant d'effet que ça. Il s'est approché aux actualités, il m'a embrassé au dessin animé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, oh, dans ma tête tout s'est embrouillé. Et ce soir-là, oh, et ce soir-là, et ce soir-là au cinéma, oh, Popeye a fait boop, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je les ai vus la tête en bas, ça montait d'ici, ça descendait par là. Popeye a fait boop, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça m'a fait autant d'effet que ça. Depuis, c'est lui, c'est lui, qui dit tous les soirs, allons au cinéma. Quand Betty fait boop, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça, non, je ne sais pas pourquoi tout ça, je ne sais pas pourquoi tout ça m'a fait autant d'effet que ça.
Josette Daïdé dans cette chanson, donc écrite pour les paroles par Françoise Giroud, la grande patronne de l'Express. Il faut dire que cette France des années 60, elle est évidemment tout entière construite autour d'une figure tutélaire, celle de Gaulle, et en même temps, elle est très anti-gaulliste, et notamment le milieu journalistique, le milieu parisien, l'Express plus que tout.
J'étais pas gaulliste au sens où on l'entend, c'est-à-dire RPR, EMP, mais je soutenais par exemple la politique du général de Gaulle, enfin le personnage me fascinait. Et à l'Express, c'était horrible.
Qui soutenait De Gaulle? Personne. Oui, c'est ça.
Il y avait un anti-gaulliste viscéral.
Viscéral.
Mécanique, bête, enfin, absolument incroyable.
Mais qui allait de pair chez Jean-Jacques Savant-Schreiber avec la fascination pour les États-Unis.
Oui, c'est aussi. Ça, absolument. Oui. L'Atlantisme, oui, tout à fait. Il se trouve que j'ai accompagné le général de Gaulle à Phnom Penh.
C'est ça qui est
extraordinaire. Donc j'ai assisté au discours de Phnom Penh. Mais vous imaginez pas ce que c'était. On sortait d'une période, la guerre d'Algérie, où la France n'avait plus aucune influence dans le monde, où elle était méprisée, où elle était montrée du doigt, où elle était pestiférée, où on n'avait plus de diplomatie. Tout à coup, là, au milieu d'un continent dominé par les Américains, monte sur cette tribune, et il donne la leçon aux Américains, et ça passe par-dessus les dirigeants, par-dessus les rois, par-dessus les princes, et on sait qu'il parle au peuple, et que la France parle au peuple. Mais moi, je frissonnais en écoutant le discours de Phnom Penh. Je votais pas forcément pour le RPR pour autant.
L'UDR, à l'époque.
L'UDR, mais ça a changé tout le temps.
Mais c'était... Le RPF, même, peut-être, je ne sais plus.
Ça, c'était quand même, il faut l'avoir vécu, hein.
Enfin, qui soutenait De Gaulle à Paris réellement dans le milieu
dans intellectuel ? Dans les milieux journalistes ou intellectuels, assez peu, oui.
Assez peu,
assez
hein.
peu, oui. Assez peu.
Il y a quand même quelqu'un qui le soutiendra.
Ben moi, j'ai passé d'ailleurs, je vais vous dire, il y a quelqu'un, ben, je sais pas, c'est peut-être ça dont vous voulez parler.
Oui, il y a quelqu'un qui le soutiendra dans la chanson.
C'est, voilà, ben j'ai passé c'est Gilbert cette chanson. Oui. Quand je faisais une émission sur France Inter, j'ai passé cette chanson et les gens étaient interloqués. Je la trouve très bonne, cette chanson. Très
belle,
bien faite. Interloqués que je passe cette chanson.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan, quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan, ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras beaucoup.
Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
La vie, la longue vie, ton fils apprendra pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût, moi. Quand elle ne sera plus, je te parie sans sou, ouais. C'est vraiment très dommage, toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants, ouais. Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Ah, c'était pas facile d'être un chanteur de droite
il
à
avait
l'époque.
Raison, hein. On le regrettera, il avait raison.
Oui, aujourd'hui tout le monde le regrette, ouais. Ouais.
Il a été boycotté pour ça, et c'est vrai qu'on le regrettera, enfin qu'on l'a regretté. Il
aujourd'hui
a été
tout le monde regrette De Gaulle.
Alors, on le désignait comme un chanteur de droite. D'abord, ça aurait été son droit total d'être un chanteur de droite. Mais en l'occurrence, c'est pas lui qui est un chanteur de droite, c'est le type qui lui écrivait ses chansons, de la Noé qui était de droite.
En tout cas, c'est vrai que finalement, c'est une chanson, on peut dire presque visionnaire, parce que qui n'est pas gaulliste aujourd'hui?
Puis c'est une bonne chanson. Ouais. Objectivement, c'est une bonne chanson.
Alors, je disais, vous avez tout traversé. Alors, Jean-François Kahn, vous avez aussi traversé mai 68. Vous avez même été blessé en mai 68. C'est un fait de guerre, ça.
Ouais. J'ai eu le pied ouvert par une grenade.
Un éclat de grenade.
Un éclat de grenade. Mais en plus, on m'a envoyé à Prague, donc à cloche-pied, après, parce que c'était, fallait le vivre. Je venais de vivre une révolution où on brandissait des drapeaux rouges, et ensuite je me retrouve dans une révolution où on déchire les drapeaux rouges.
Oui, voilà. Et vous montrez tout ça très bien, toute cette
et
complexité.
Je raconte quand même un truc, c'est que quand je suis revenu, ça c'est mon souvenir ineffaçable, parce qu'il y avait une grève générale. Donc quand je suis revenu de Prague, j'ai dû prendre l'avion pour Bruxelles et prendre un car. Le car a longé un parc zoologique, et là, il y avait une girafe avec un drapeau rouge attaché à son cou. Là, j'ai dit, ça va, là, il se passe des choses.
Mais vous n'êtes pas un vrai 68-art.
J'étais pas 68-art, mais j'ai trouvé que la première partie de mai 68 était quelque chose de très puissant, de très émouvant et très fort.
Et puis, alors, dans les années qui vont suivre, Jean-François Kahn, et ça, vous en parlez dans ce premier volume de vos mémoires, vous allez commencer à vous intéresser de plus en plus à la chanson, au point de lui consacrer des émissions. C'est arrivé un petit peu par hasard, là encore, d'ailleurs, hein, parce que vous fallait mettre une chanson à la fin d'une émission sur Europe 1, ou au début, je sais plus.
Il se trouve que j'avais choisi une chanson à la fin du journal que je présentais sur Europe 1, et qu'il l'avait censuré en disant « ça apparaît comme une critique du reste de l'antenne ». Parce que en effet, il y avait du Brel, du Ferré, du Mozart, enfin bref, parce qu'il y avait aussi des musiques classiques. Mais non, c'est depuis longtemps, voulais faire une émission où je me sers de la chanson comme élément pour explorer un domaine historique, sociologique, moral, enfin voilà.
Voilà. Et ça a été effectivement le sujet donc, de cette émission sur France Inter, qui s'appelait « Avec tambour et trompette », où c'était vraiment cette idée, j'ose dire, fixe chez vous, parce que c'est très important pour vous, de vraiment raconter l'histoire à travers la chanson.
Voilà, je vous signale que les gens qui ont l'âge me parlent plus souvent de ça que de tous mes éditoriaux politiques.
C'est vrai.
Et ben juste, c'est bon pour vous.
Oui, et alors justement évidemment, j'ai regardé dans les archives et j'ai retrouvé une émission du 29 mars 1980 avec tambour et trompette. Donc ça va nous permettre à la fois d'entendre votre générique, qui était un extrait de Petrouchka, on reconnaîtra tout de suite, une chanson de Jean-Yann formidable que vous avez choisie ce jour-là pour parler de la police et de la chanson, et puis votre voix de l'époque juste quelques secondes après.
Avec tambour et trompette. Bonjour. Eh bien, nous allons commencer cette émission non seulement avec tambour et trompette, mais en fanfare.
C'était une chanson de Jean-Yann que je ne connaissais pas, Jean-François Kahn, elle est très très bien, à la gloire évidemment au second degré des compagnies républicaines de sécurité, ce qui nous rattache à mai 68, c'était votre émission avec tambour et trompette.
Je suis ému de le réécouter.
En plus, vous avez fait beaucoup d'autres choses sur la chanson par
oui,
la suite.
Après, j'ai fait beaucoup. Oui. D'ailleurs, dans le livre de mémoire, je fais tout un chapitre sur la chanson.
Oui, oui. Et puis sur les chanteurs que vous avez connus, moins connus, aimés ou moins aimés.
Ce qu'elle apporte, comment la chanson nous apprend plus sur l'état d'esprit, en point de vue historique, oui. d'une période donnée que souvent les rapports de préfets ou de gouverneurs. Hein.
Voilà, et ça depuis les plus loin,
depuis longtemps.
Certaines heures de l'histoire de France. Et d'ailleurs, justement, on va rester un peu dans le domaine de la chanson, justement, tel que vous l'abordez ici, parce que vous évoquez notamment la question de la chanson cochonne, comme on dirait, ou de la chanson leste, en tout cas, pour le moins, qui s'est beaucoup transformée à travers les âges, hein, entre celles de votre petite enfance et puis celles qui sont apparues plus tard.
C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de montrer, c'était un des thèmes de chanson une émission une fois,
oui.
c'est quand on ne pouvait rien dire, quand c'était interdit de dire, les chansons étaient incroyablement cochonnes.
Voilà, sans prononcer les gros mots.
Rien, il y en a une qui disait « Ah, dis chérie, dis-moi en de la trompette ». Vous connaissez pas « Dis chérie, joue-moi en de la trompette », c'est extraordinaire.
Et quand... en fait, c'est assez lourd et assez vulgaire.
Ah, mais c'était totalement vulgaire. Et quand on s'est mis à dire les choses, et je pense à une chanson de Pierre Perret, « Sur le sexe de la femme ». Voilà, c'est la chanson « C'est sur le sexe de la femme », qui est magnifique.
Voilà.
Qui est une chanson magnifique. Voilà, c'est je trouve c'est intéressant de constat.
Voilà, alors on peut illustrer d'ailleurs tout de suite si on veut ce constat. On va écouter d'abord Cendré ouvre la fenêtre. Alors là, c'est les mots sont évités par même un procédé technique d'éviter la rime toujours. Hein. Et puis tout de suite après, donc justement, cette chanson que vous aimez de Pierre Perret.
Fils du maire de mon pays, oui, 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 n'est pas le plus bête du canton, non, 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 non. Seules les mauvaises langues, dit-on, prétendent qu'il a l'air d'un, ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, qu'il a l'air d'un orgueilleux. Toutes les filles en pincent pour lui, oui, 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 mais il n'est pas polisson, non, 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 non. Et sans être un cénobite, il n'a qu'une toute petite, ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, une petite môme aux yeux bleus. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, 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 sans qu'elle rougisse d'émotion, non, 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 à la lisière du village, il lui ravit son plus, ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, son plus innocent aveu.
Si je me réfère à mon dictionnaire, il est temps de faire la définition de ce mot espiègle qui échappe à la règle, plus noble qu'un aigle dans sa condition. Ce mot, vous le dites, sans serres hypocrites, établissez vite son vrai sens profond. Car si on l'ausculte, au lieu d'une insulte, on peut faire un culte du joli mot con. Ce lieu de délice n'a pas de notice, mais même un novice en aurait la clé. Y a sous sa pelisse le climat de Nice, entre deux éclisses tendrement musclées. Moi mon seul complice, c'est celui d'Alice, c'est de la réglisse du petit sucrin. La frêle couture qui pourtant l'obture me lie l'aventure au creux de la main. L'amour enjolive sa discrète ogive aux petites rives finement lactées. C'est un édifice tout en haut des cuisses, un village suisse, un matin d'été. Un monde déesse qui gonfle et se dresse trouve la caresse quand soudain jaillit le berlingot rose vers ma bouche éclose comme un flamant rose s'échappe du nid. Tartuffe notaire, bourgeois de Citerre, qui trouvez austère cet endroit charmant. Il vous est bizarre, rien ne le compare à votre outil rare de super amant. Apprenez Jocris, frustré de service, que celui d'Alice bat pour le plaisir et qu'il se démène sous les coups obscènes d'un mât de misaine qui le fait jouir. Aux tendres blessures, divines échancrures, sous votre toiture de satin frisé, du petit losange filtre l'eau du Gange, entre mes phalanges soudain baptisées. Que la cicatrice si jolie d'Alice jamais ne guérisse mes amis, sinon dans ce monde triste de baisers centristes qui joue en soliste, je me sens si con.
Et c'est vrai qu'elle est très jolie, ah, cette chanson de Pierre Perret, choisie donc par vous, Jean-François Kahn, après Cendré ouvre la fenêtre. Mais c'est pas mal non plus, c'est bien fichu, en tout cas. Et voilà, c'est ainsi qu'on arrive à la fin du premier tome de vos mémoires d'outre-vie, hein, très, très joli titre, Jean-François Kahn, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Évidemment, toute la fin, la dernière partie du livre, elle tourne d'abord pour une partie autour de Giscard. J'ai envie de dire le malheureux Giscard, parce que tout le monde se moque toujours de Giscard, finalement, j'ai l'impression, non?
Oui, bon, moi, des fois, c'est quand, sur le bon choix, le discours du bon choix, on fait quelques pages assez gratinées et ironiques. Mais par exemple, l'histoire des diamants, c'est un faux scandale.
Oui, vous l'expliquez, ça, justement.
Il a rien fait de répréhensible.
Voilà. Et puis l'arrivée de Mitterrand, ce grand moment de la gauche, qui va finalement peut-être pas se concrétiser comme tout le monde l'aurait espéré, et qui va vous conduire à de nouveaux choix qui seront, j'imagine, développés davantage dans le deuxième tome à paraître de vos mémoires. Mais voilà, vous avez choisi ce moment-là comme la séparation en deux de votre vie. Vous pouvez nous expliquer un peu?
Parce que tout à coup, je passe à une autre vie. Je deviens patron de presse. J'aurais jamais imaginé être patron de presse.
C'est lié à un certain échec pour vous de l'arrivée de la gauche ou...
Oh non, ni de la gauche ni de la droite. C'est le fait qu'on ne pouvait plus exprimer ce qui correspondait à ce que je pensais. Les médias étant ce qu'ils étaient, je ne pouvais plus. Donc voilà. Maintenant, pour vous dire toute la vérité, j'ai créé et dirigé deux journaux.
Donc l'événement du jeudi puis Marianne. Voilà.
Ça a été souvent un enfer. Hein. Et un cauchemar, bon, on n'imagine pas, sans argent, sans capitaliste derrière moi, sans banque derrière moi, allant à l'encontre des idéologies dominantes, franchement, il y a des fois j'ai vécu des enfers et des cauchemars. Il y a aussi eu des grands moments, mais...
Voilà. Alors ça, ce sera le sujet donc du deuxième tome, voilà. Et il en est où le deuxième tome?
Non, je l'ai fini maintenant.
Il est fini.
Fini d'écrire.
Voilà, donc il n'a plus qu'à paraître. Ouais. Et on va se quitter, Jean-François Kahn, avec... Je me suis dit, il y a un petit peu un parfum de libération en ce moment, parce que c'est, on l'espère pour longtemps, la fin de toutes ces circonstances liées à l'épidémie. Alors je me suis dit qu'on allait finir avec une chanson de la libération.
Oui, mais qui est, à mon avis, sur l'échec de la libération.
Oui, c'est vrai.
Expliquez-nous. Deux chansons qui ont eu le plus de célébrité, non, il y en a trois, au moment de la libération.
Oui.
Et d'ailleurs, ça montre, entre parenthèses, que c'était pas un moment d'enthousiasme idéologique révolutionnaire. C'est « On prend le café au lait au lit ».
Ça, c'est plutôt bien.
Ouais, mais c'était bien, on retrouve ça. C'était « Ploum ploum, tralala, voilà ce qu'on danse » de Francis Blanche. Et cette chanson qui est « Un monsieur attendait ». C'est un type qui attend la femme qu'il aime dans un café, mais elle s'est trompée de café.
Ouais,
donc, il ne se retrouve jamais. Donc, on a l'impression que c'est un symbole de l'espoir des gens qu'ils ne retrouveront pas dans la libération.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'est une jolie chanson de chantée par Georges Hulmer, avec laquelle on va se quitter. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François.
Moi qui vous remercie.
On vous attend pour le volume 2, alors.
Voici l'histoire émouvante d'un tout petit monsieur qui aimait tendrement une jeune fille de son village.
Ah, monsieur attendait au café du palais, devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Elle lui avait dit, je viendrai vers midi, il était déjà 6h30. Il pensait, c'est bizarre, comme les femmes sont en retard, mais toujours patient et plein d'égards. Ah, monsieur attendait au café du palais de Vendôme du Bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Lorsque sonna minuit, il repartit chez lui en se disant, c'est pas pour aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait bien qu'elle ne vienne pas demain, et lentement dès 8h du matin. Ah, monsieur attendait au café du palais, devant un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Puis les mois se passèrent, vint la crise et la guerre, le café changea de propriétaire. On refit les plafonds, les chaises, les guéridons, mais même pendant les transformations, monsieur attendait au café du palais de Vendôme du Bonnet la femme qu'il aimait. Ne viendra pas. Un soir, l'âme bien lasse, il la vit dans une glace. Oh, elle était juste au café d'en face. Elle s'était tout bonnement trompée d'établissement. Et voilà pourquoi, pendant 40 ans, monsieur attendait au café du palais, devant Donne du Bonnet, la femme qu'il aimait. Mais le jour qu'il la vit, elle avait un mari, le patron de l'autre bar, c'est la vie.
Georges Hulmer avec l'orchestre de Jacques Elian. C'était en 1947. Hein, un monsieur attendait, une des chansons choisies aujourd'hui par notre invité Jean-François Kahn. Jean-François Kahn qui vient de publier un passionnant premier tome de ses Mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et comme vous vous le rappelez peut-être, Jean-François Kahn, donc mon invité, vient de fêter ses 83 ans. C'est pourquoi la semaine dernière, je vous avais fait réentendre diverses versions de Bon Anniversaire, le Happy Birthday qu'on chante aujourd'hui, le vieux Bon Anniversaire de notre enfance, chanté par André Claveau. Et puis tiens, j'en ai trouvé encore d'autres dans des disques de bruitages un petit peu bizarres, des bruitages qu'on utilise en radio ou au cinéma. Voici par exemple un Happy Birthday érotique.
Oh, 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 oh.
Tourbillon Tourbillon de Paris par le grand orchestre de Roger Roger. Et tiens, à propos de Tourbillon de Paris, je voudrais vous parler du Tourbillon du Châtelet, parce que justement, le Châtelet, le grand théâtre musical de Paris, comme on l'appelait autrefois, eh bien, ne met pas simplement fin au confinement, il met fin aussi à une longue période d'absence de l'opérette. Il y a, en ce mois de juin, une opérette à l'affiche du Châtelet, et c'est un événement. On sait en effet que, au cours des dernières saisons, le Châtelet avait suivi une évolution un petit peu bizarre vers des spectacles très engagés, très sérieux, très sociétaux, un peu du même genre que ceux qu'on donne en face au théâtre de la ville. Mais la fantaisie, le divertissement musical de qualité qui ont toujours été associés à cette maison avait quasiment disparu des programmes. Et le public n'était pas content et la presse n'était pas très contente non plus. Finalement, la direction a subi quelques changements. Et aujourd'hui, eh bien, pour la fin de ce confinement, c'est une opérette qui marque donc la réouverture du Châtelet. Et croyez bien que je m'en réjouis, d'autant plus qu'il s'agit de Vlan dans l'œil ou L'œil crevé, l'opérette du grand Florimond Rongé, dit Hervé, dans laquelle figure par exemple cette étrange chanson intitulée « La chanson de la langouste atmosphérique ».
Sur les rives de la Dour, là s'y trouva son pasteur.
Tiens, c'est l'Auvergnat.
Oh, ignorante, c'est la langue de l'immortel jasmin. Doux, naïf, exempt de vice, et qui échasse les escrovices. Il disa sous mon bon Dieu, de lui ascoutarer mon rêve. Si tu m'accordas fortuna, jour le jour à part la luna, sur les bords de ce canal, joue bâti.
Un hôpital, comme c'est gai.
Écoutez bien cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La torrila, la torrila, sautez, danseur. Trompette et basse, tenez la tournelle, rompe les tambours en avant la pastourelle. La torrila, la torrila, good morning, sir. Vous, charmante d'indonnette.
Puis sur le flot rassuré parut un poisson doré qui portait l'herbe magique sur sa coupe magnétique. Il invita le pasteur à cueillir l'herbe d'amour et notre homme étant en booste mangea l'herbe et la langouste, oubliant dans son erreur qu'il croquait son bienfaiteur. Oh, l'ingrat! Voilà, voilà, c'est l'histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La torrila, la torrila, sautez, danse! Trompe des basses, tenez la rétinelle, ronfle tambour, on appelle la pastorelle. La torrila, la torrila, coupeur et innocent!
La légende que je sais a 70 couplets. Pour qu'elle vous fasse passe, des autres je vous fais grâce. Mais la morale à la fin doit terminer le refrain. Comme la pauvre écrevisse ne rendait jamais service, il vaut mieux renflouer les gens que de les voir vivre à vos dépens.
Voilà, voilà, cette histoire véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La corrida, la corrida, sautez, tasse. Trompette et basse, entonnez la tournelle, rafle et tambour, en avant la pastourelle. La corrida, la corrida, good morning, sir.
Et toujours chez Hervé, ce mélange d'opéra comique et de surréalisme avant l'heure, notamment dans cette langouste atmosphérique qu'on vient d'entendre chantée par Aimé Donia. C'est une archive, bien sûr, de Radio Lyrique. On retrouve donc l'opérette d'Hervé, Vlan dans l'œil ou l'œil crevé, à l'affiche du Châtelet dans les tout prochains jours avec Lara Neumann, Ingrid Perruche, Olivier Py et d'autres encore sous la direction musicale de Christophe Graperon. C'est jusqu'au 23 juin. J'ajoute, faut-il le préciser, que Vlan dans l'œil, c'est un pastiche, une parodie du Guillaume Tell, la légende de Guillaume Tell et le célèbre Guillaume Tell de Rossini, très populaire à l'époque. Je vous propose donc pour finir un extrait du ballet de Guillaume Tell du grand Rossini. Pas de Troie et Chœur tyrolien, extrait du génial ballet de Guillaume Tell de Rossini par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo sous la direction d'Antonio de Almeida. Un
ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique, Cédric Chatelus et Titouan Labarre. Réalisation Christine Amado. Et nous nous retrouvons bien sûr samedi prochain. J'aurai la joie d'accueillir Olivier Bellamy pour parler de la Comtesse Pastrée. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.